Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
C'est Laurie Darmon et vous écoutez mon podcast Exil. Une chanson ouvre parfois un chemin qui la prolonge, la dépasse, la transforme en refrain intime, en partage profond. C'est ce qui s'est passé avec l'une des miennes, celle que vous entendez, qui sera le fil rouge de cette série de podcasts. Cette chanson s'appelle L'Exil. Cet exil, c'est d'abord celui de ma grand-mère, cette histoire qu'elle ne me raconte qu'à mes 25 ans et qui ne m'a plus lâchée depuis. Mais cet exil se conjugue au pluriel et devient l'exil de tous ceux qui, comme elle, ont connu les départs forcés, l'arrachement au pays, la découverte d'un ailleurs étranger. Qu'ils viennent d'Orient, d'Afrique du Nord ou d'autres régions du monde, j'ai voulu donner la parole à tous ceux qui ont grandi ailleurs, ainsi qu'à leurs enfants ou leurs petits-enfants comme moi. J'ai voulu qu'ils déroulent avec moi, avec vous, le long fil qui s'insinue partout, les amours, les voyages, les plaisirs, les chagrins, et rassemble tous ceux qui se vivront toujours exilés de quelque part, nomades, entre deux rives.
Je m'appelle Macha Mostora, je suis né en 1950 en Algérie, dans une ville qui s'appelle Constantine. Une ville traditionnelle parce que c'est une ville de tradition à la fois religieuse, musicale, artistique. Vous vivez majoritairement les juifs et les musulmans dans cette ville, les éléments européens, comme on les appelait, n'étaient pas majoritaires, à la différence d'Alger ou d'Oran. Moi, j'avais 12 ans, donc au départ de Constantine, donc en 1962. On est parti parmi les derniers, quelque part, puisque le 12 juin, c'est vraiment la fin. C'est l'indépendance de l'Algérie, c'est le 5 juillet. Donc, on a attendu beaucoup. Et parce qu'il y a eu beaucoup d'hésitations de la part de mon père, s'il fallait rester, partir, etc. Ceux qui hésitaient le moins, dans le fond, c'était les fonctionnaires, parce que ceux qui étaient instituteurs, postiers, infirmiers, etc. Bon, eux, ils suivaient leur administration, ils n'avaient pas de problème. Mais mon père, lui, était commerçant, était marchand de semoule, et ma mère ne travaillait pas. Donc, dans la mesure où ils n'avaient pas d'emploi fixe avec l'État français, l'administration française, bah, ils ne savaient pas trop ce qui allait se passer pour eux en France, d'autant qu'ils étaient très âgés, enfin âgés. Relativement, parce que mon père avait 53 ans et ma mère avait 46 ans. Donc, c'était pas tout jeune quand même. Il partait pas pour tenter l'aventure, disons, vers des terres nouvelles. Hein. Au contraire, c'était un arrachement parce qu'ils étaient installés là, ils étaient assez âgés. Ma sœur avait 17 ans, moi j'avais 12 ans. Donc, c'était quand même pas évident. C'est pour ça qu'ils ont beaucoup hésité. Donc, en hésitant, et malheureusement pour eux, ben, ils sont passés à côté des moyens du départ, c'est ce qu'on appelait les cadres, où on mettait toutes les affaires à l'intérieur des cadres, des grands cadres en bois qu'on emmenait, qu'on mettait dans des bateaux. Le bateau partait de Beaune, c'est-à-dire de Annaba aujourd'hui. Et donc, il n'y avait plus de cadres, quoi. Donc, on est parti, en fait, en laissant intact l'appartement, etc., avec deux valises chacun, parce que c'était la loi de l'époque, hein, on n'avait pas le droit d'avoir plus que ça. Et donc, on est parti. Puis, mon père est revenu après. Il est revenu après l'indépendance, il est revenu à Constantine en octobre 62, précisément pour récupérer les affaires, les mettre dans un cadre et les réexpédier vers la France. Donc ça a été, par parenthèse, un été 62 qui était un été un peu angoissant parce qu'on était dans une petite maison de banlieue à Montreuil que mon oncle avait acheté 3 ans avant. Il y avait une trentaine à vivre dans cette petite maison et on n'avait pas d'affaires, on n'avait rien, on ne savait pas ce qu'on allait devenir, en fait, fondamentalement. Donc, il y avait une certaine angoisse, quoi, des enfants qui étaient là, notamment, parce qu'on savait bien que ce n'était pas des vacances, on savait bien quoi, qu'on n'allait pas revenir, mais où étaient nos affaires? Donc, c'était quand même assez angoissant. Et les affaires, elles sont arrivées que bien plus tard, puisque après, mes parents ont trouvé une sorte de garage désaffecté dans le 16e, où on a habité pendant 2 ans et demi, et les affaires sont arrivées à l'été 63. Donc on a été obligé de vivre avec ce qu'on avait acheté plus ou moins sur place à Paris, etc. Chauffage, vêtements, habillements, etc. pendant presque une année. Donc ça a été des conditions de vie quand même très difficiles, Et surtout que l'hiver, décembre 62, janvier 63, février, c'était un des hivers les plus froids en France. Il faisait très, 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 très froid. Et c'était très difficile à vivre, quoi, parce qu'il y avait l'exil, enfin, au sens du déracinement, quoi, c'est-à-dire le non-retour en arrière possible, etc. Et l'attente de ses affaires, c'est-à-dire qu'on part sans rien, quoi, vous savez, j'ai gardé d'ailleurs en moi, c'est-à-dire bon, la sensation que je pouvais partir seulement avec une valise, quoi. Voilà, ça a terminé, et puis laisser derrière moi toutes les affaires, bon, c'est une sensation comme ça qui a continué à m'habiter très longtemps, hein, c'est jusqu'à aujourd'hui, hein. J'ai l'impression que je peux partir comme ça du jour au lendemain et puis refaire une vie, quoi, parce que c'était ça, quand même. C'était partir avec une valise et refaire une vie. C'était pas... Alors, heureusement que la France des années 60, c'est une France prospère, il n'y a pas de chômage, les 30 glorieuses, enfin bref, tout ça est connu. Et donc, mes parents ont pu réussir quand même à rentrer au bout de 2 ans, 3 ans dans la société française. Mais ça n'a pas été évident. Voilà. Les Français, je crois qu'ils ne nous regardaient pas, quoi, parce que ça n'existait pas pour eux. Hein. Alors, bah, évidemment, ils nous repéraient par l'accent. C'est l'accent qui faisait la différence. Hein. Accent très, très fort. Et donc, il fallait d'ailleurs, pour s'intégrer, entre guillemets, il fallait gommer son accent. Hein. Je veux dire, c'était vraiment... C'est sur la question de l'accent que s'effectuait le repérage des gens qui venaient d'Algérie ou d'Afrique du Nord, disons, au sens large. Donc, il fallait gommer son accent et puis essayer de s'habiller comme eux, quoi. Essayer de les imiter au maximum, ne pas se faire repérer. Bien travailler à l'école, évidemment, c'était la consigne numéro 1, comme donné sans arrêt mes parents. Hein, Et il se trouve par une espèce de paradoxe historique assez étonnant, c'est que moi, je me suis retrouvé dans un lycée très chic parisien, très important, tout simplement parce que mes parents habitaient dans cette espèce de garage désaffecté. Et je me suis retrouvé à Janson de Sailly. Donc c'est comme ça que j'ai fait mes études à Janson de Sailly, mais j'appartenais pas du tout à la catégorie sociale privilégiée qui fréquentait ce lycée. Je l'ignorais complètement d'ailleurs. Hein. Sauf que quand j'étais reçu par mes petits camarades de 5e, 4e, etc., bon, alors je voyais bien la différence quand même de logement, d'appartement, etc. C'était le jour et la nuit. Arrivé du quartier juif de Constantine, au 16e arrondissement de Paris, avenue Mozart, pour aller vite, rue de l'Yvette, avenue Mozart, métro Jasmin, etc., c'était surréaliste. C'était complètement délirant, parce que à Constantine, tout le monde vivait dans les rues, les portes étaient ouvertes, les gens se connaissaient les uns les autres, tout le monde parlait entre soi, etc. Et quand on est arrivé à l'été 62 à Paris, c'était le désert. Hein. Il n'y avait personne dans les rues, personne ne se connaissait. Ma mère essayait de nouer des conversations avec les gens dans les rues, tout le monde s'enfuyait, donc on avait peur, évidemment, parce que c'est la découverte aussi de l'individualisme. Enfin, bon, ça, on n'avait pas l'habitude, parce qu'on vivait dans un monde très communautaire, en fait, hein. Très protégé, dans l'entre-soi, très étouffant aussi. Il y a les deux aspects, hein, à la fois protecteur et étouffant, ouais, compliqué. Mais là, en France, c'est la solitude, quoi. Alors, voilà, on est tout seul, dès que vous engagez la conversation avec quelqu'un, qu'est-ce qu'il me veut? Pourquoi il discute avec moi? Alors que c'était tout simplement la volonté de briser le silence et de trouver parce que le grand drame, en fait, de cet exil, c'est la dispersion familiale. C'est des familles gigantesques. Constantine, il y avait, du côté de mon père, ils étaient 6 frères et sœurs. Du côté de ma mère, c'était 7 frères et sœurs. Donc, j'avais une cinquantaine de cousins germains. Donc, c'est, bon, voilà, donner une idée de l'ampleur du truc. Et tout le monde se connaissait, etc. En arrivant en France, la plupart se sont dispersés. Il y en a qui sont partis, bien sûr, dans le Midi, hein, beaucoup, Montpellier, Marseille, Nice, mais aussi Toulouse, mais aussi Strasbourg, et puis, bien sûr, Paris, la région parisienne. Bon, ça, c'est normal. Tout d'un coup, en l'espace de quelques semaines, c'est une espèce d'univers éclaté. C'est-à-dire que tout le monde se disperse à travers toute la France. Alors, ils s'appelaient au téléphone, ils essayaient de maintenir le contact, mais c'était fini. Je veux dire, chacun était renvoyé à sa propre solitude. Alors, pendant tout un temps, mes parents se sont accrochés pour essayer de retrouver des aspects de vie communautaire dans le quartier Saint-Paul, à Paris, pour acheter la viande, aller chez le coiffeur, faire des courses, aller à la synagogue, bon, les Tournelles, bien entendu, qui est devenue la grande synagogue des Juifs de Constantine. Enfin, le cœur n'y était plus. Parce qu'il fallait faire des trajets absolument invraisemblables pour aller se faire couper les cheveux, par exemple, alors qu'on avait un coiffeur à côté de chez nous. C'est ce que je disais à mon père. Je disais, papa, je comprends pas pourquoi j'ai pu faire 1h30 de métro. Mais en fait, c'est plus tard que j'ai compris que les malheureux, ils essayaient de se raccrocher à une vie antérieure qui avait disparu, avait complètement disparu. Et donc, au bout d'un an ou deux, plus même, donc on a quitté le 16e et on est parti habiter en banlieue à Sartrouville. On a eu un HLM comme beaucoup de rapatriés, comme on disait à l'époque. Mes parents sont restés d'ailleurs dans ce HLM. Bon, après, j'ai quitté, bien sûr, j'ai fait des études, etc. Mais c'était encore plus loin parce que c'était la banlieue lointaine à l'époque, dans les années 60. Alors là, ça a été aussi étonnant parce que je suis passé de Janson-de-Sailly à Saint-Germain-en-Laye parce qu'il n'y a pas de lycée à Sartrouville. Donc quand on regarde mon CV, il y a cette chose assez bizarroïde. On voit Benjamin Stora, il a fait ses études à Janson-de-Sailly et au lycée de Saint-Germain-en-Laye. On dit, oh là là, mais alors c'est vraiment... il appartient à une catégorie sociale, il a été bien briefé sur les grands lycées, etc. En fait, c'était des lycées de proximité avec des lieux de déplacement, d'errance, d'exil, ça avait absolument rien à voir avec des stratégies de carrière, vous savez, comme on a maintenant la volonté pour des familles, pour les enfants, d'avoir des grands lycées avec la prépa, etc. Et bon, ça, alors là, nous, c'était pas du tout ça, hein, vraiment pas. Hein. On avait un côté tout à fait pratique. Alors, quel est le lieu le plus proche, etc. Mais Sartrouville, c'était très difficile parce que c'était loin de la gare, il fallait prendre un bus, ensuite aller à la gare. Moi-même, le lycée, c'était très très loin, le lycée de Saint-Germain, j'avais 1 heure de transport. Enfin, c'était une vie de fou, quoi, dans les années 65-67. Bon, heureusement que, comme adolescent, parce que là, je commençais à rentrer dans l'adolescence, il y avait plein de choses qui me faisaient oublier l'Algérie, l'exil et tout ça. C'était notamment la révolution musicale qui arrivait. Il y a les grandes émissions sur Europe 1 notamment, les émissions ou alors comme Campus, etc. Enfin bon, il y a tout un monde, une effervescence culturelle qui annonce 68 en fait, hein, qui précède 68. Et puis il y a eu 68 qui m'a fait oublier l'Algérie. Là. Alors là, je me dis, là on rentre en France, quoi. C'est-à-dire c'est... J'avais 17 ans, donc là, on rentre les manifestations de rue, la solidarité lycéenne, la révolution, les engagements solidaires, la fraternité, la famille, quelque part. C'est-à-dire qu'on retrouve une famille, quoi, je veux dire révolutionnaire cette fois-ci, à laquelle je suis resté quand même pas mal d'années, mais c'était une forme de substitut, quelque part, à une espèce de protection communautaire. C'est-à-dire, je recréais sans le savoir, évidemment, j'en avais pas conscience, hein, c'était pas élaboré dans ma tête, hein, mais j'avais besoin de retrouver cette sorte de refuge communautaire permettant de comprendre la société française. Parce que, dans le fond, comme individu ou simplement avec mes parents, je comprenais mal cette société, j'arrivais pas à la saisir, hein, et c'est par l'engagement politique et donc entre guillemets communautaire, mais néo-communautaire, pas religieux, que j'ai pu entrer dans la société française. C'est que j'ai pu la comprendre en m'insérant dans une filiation politico-historique qui partait de la Révolution française, la Commune de Paris, le Front populaire, etc. Là, je rentrais dans une histoire, je m'inscrivais dans une histoire qui me convenait d'ailleurs parfaitement, sauf à la fin avec la décolonisation, évidemment, mais qui me convenait très bien parce que mon père, en particulier, dans les années 30, à Constantine, était antifasciste, complètement. C'est-à-dire qu'il combattait complètement... il était très à gauche, en fait. Hein. Il était ami avec un peintre, s'appelait Atlan, donc un peintre relativement connu, qui était de Constantine, qui était au lycée avec lui. Et donc, en fait, sans le savoir, il m'avait transmis cette éducation de l'histoire politique, avec après Vichy, l'abrogation du décret Crémieux, chasser de la fonction publique, etc. Quand moi je m'engage en politique, j'ai ce souvenir de tous ces événements-là aussi, hein, qui m'aident à m'orienter et à me réinscrire, disons, dans une filiation politique à gauche. Alors peut-être pas aussi à gauche, évidemment, que ceux de mon père. Hein, il était quand même assez révolté. Donc, mais sans comprendre les enjeux de ce qui s'était joué pendant la guerre d'Algérie. Ça m'est venu qu'après coup, quand j'ai fait des études plus tard. Les études, les concours, les thèses, les livres, tout ce qu'on veut, etc. Mais au moment où je m'engage en 68, quelque part, c'est la fin de l'exil. C'est-à-dire, c'est le fait de rentrer dans une fraternité, dans une collectivité, dans une communauté, dans le fait de, Et d'ailleurs, par parenthèse, les amis que j'ai aujourd'hui, enfin, moi, j'en ai, comme tout le monde, j'ai beaucoup de relations, mais j'ai très peu d'amis, c'est classique. Ceux qui traversent ma vie, hein, je veux dire, des années 70 à aujourd'hui, ce sont des gens que j'ai connus à cette époque-là. On s'est jamais quitté, en fait, fondamentalement. C'est 6, 7, 8 amis, voilà, on s'appelle, c'est comme si on se quittait la veille, etc. On est tous très vieux maintenant. Mais c'est tous des gens rencontrés entre 68 et 72, quoi. C'est assez extraordinaire, quoi. J'ai pas de vrais amis après coup. Après, j'ai des connaissances, des relations, des gens qui m'aiment bien, etc., bon, évidemment. Mais ceux sur qui vraiment je peux compter, avec qui je partage des souvenirs, des fous rires, des réflexions, des automatismes, du point de vue des images, des mots d'ordre, des réflexions, c'est eux, quoi.
Est-ce que vous pensez que votre exil a influencé votre choix de métier?
Il y a toujours une influence. On peut pas dire que tout soit séparé, etc. Bien sûr, l'exil, c'est aussi la nécessité de retrouver une filiation, c'est-à-dire de se réinsérer. L'exil, c'est pas rester dans l'exil. C'est les gens qui chantent l'exil, qui pleurent l'exil, qui vivent dans l'exil, qui sont heureux dans l'exil quelque part, ou malheureux, parce qu'il y en a eux-mêmes. C'est pas mon cas. Moi, l'exil, ça a été pour moi la volonté d'en sortir. C'est-à-dire de dire, mais d'où je viens et qui je suis et dans quelle histoire je me situe? Dans quelle filiation je me réinscris? Je veux pas être perdu. Je veux pas me perdre dans l'exil. Hein, donc c'est pas pour moi l'exil, c'est pas quelque chose d'extraordinaire qui permettrait de faire de la poésie, de la peinture, de la littérature, du déchirement des âmes et tout ça. Non, pas du tout. Moi l'exil, j'ai vécu comme un traumatisme parce que derrière l'exil il y avait la guerre, il y avait la mort, il y avait la fuite quelque part. Donc c'est l'exil, c'est synonyme de tout ça quand même. Hein, donc dans le traumatisme, on veut en sortir. Hein, on veut pas essayer dans la rumination, dans la restauration du souvenir, je sais pas quoi, etc. La question c'est d'en sortir. Et donc, oui, ça a joué. Donc, de me réinscrire dans une filiation historique, de comprendre ce qui s'était passé réellement. Mais quand je dis cela, c'est pas pour nourrir, disons, le sentiment perpétuel d'un exil salvateur. Ce qui me rend heureux, bien sûr, c'est le souvenir d'un paradis, entre guillemets, qui était celui de l'enfance. Enfin, moi, c'était le paradis. Donc, on s'aimait, on allait au hammam, tout le monde vivait les uns chez les autres, les fêtes, les circoncisions, les mariages, la musique, la nuit, tout ça, enfin bref, tout ça, je l'ai vécu enfant, donc c'est des grands souvenirs pour moi qui sont très importants. Et puis, brusquement, le départ et la solitude et l'exil, alors là, on se dit non, moi, j'ai pas envie de rester toute ma vie comme ça, quand même. Et puis, de voir la souffrance des parents, parce que c'est ça qui est important. C'est-à-dire que dans l'exil, dans le fond, c'est pas tellement moi qui souffrais, parce que bon, quand on est enfant, enfin, ou pré-adolescent, on arrive toujours à se faire des amis à l'école, dans le quartier. On s'en sort quand même. À Sartrouville, par exemple. J'ai eu des bons amis que j'ai découverts. Mais mes parents, ils me faisaient beaucoup de peine. Parce que eux, ils étaient déjà relativement âgés. Parce qu'ils m'ont eu très tard. Et donc, ils souffraient quand même. Eux, c'était plus leur peine qui me faisait souffrir que ma propre peine à moi. Donc, c'était plus, moi, je m'occupais plus d'eux, en fait. Enfin, dans ma pensée, hein. En pensée, je m'occupe plus d'eux, de leur désarroi, de leur façon de recevoir des amis pour parler tout le temps de Constantine, bon, ce qui m'énervait à l'époque, évidemment, parce que pour moi, c'était loin, je voulais faire autre chose, etc. Mais en vieillissant plus tard, maintenant ils sont morts depuis longtemps, je me disais, mais quelle souffrance, quoi, de ces gens, quel courage ils ont eu d'affronter une société qu'ils ne connaissaient pas, fondamentalement. Incroyable courage, quoi. C'est-à-dire de tout recommencer à zéro à 50 ans, quoi. C'est pas du tout évident, quoi. De se lever le matin, de pas sombrer dans la dépression, ce qui était quand même le cas un peu pour ma mère pendant tout un certain temps, elle pleurait quand même beaucoup, mais après elle s'est ressaisie, elle était une femme extrêmement courageuse, quoi. Mais c'est surtout ça qui m'impressionne dans l'exil, c'est le courage des gens qui ont un certain âge, disons entre 30 et 50 ans, et qui refont entièrement leur vie, quoi. C'est impressionnant, quoi. Je veux dire, le fait d'affronter la réalité, c'est-à-dire de ne pas se laisser déborder par le réel, quoi, mais de l'affronter, et sans non plus être dans la rumination du passé, en disant « Ah, c'était mieux avant », etc.
De quel Orient nous parle-t-elle? La jolie dame au souvenir.
C'est par mon fils, dans les années 2000, que j'ai commencé à travailler et à produire d'autres types de récits, comme Les Trois Exils, Les Clés Retrouvées, etc. Mais c'est par rapport à lui, c'est par rapport à son questionnement à lui. Mais ce n'est pas foncièrement un questionnement qui m'appartenait. Moi, mon questionnement, c'était d'avancer, de trouver du boulot, de gagner du fric, rentrer à l'université, avoir un poste. C'est ça aussi la question du sentiment de l'exil, c'est qu'on a le sentiment que tout peut arriver. Du jour au lendemain, il y a une catastrophe, un effondrement, il n'y a plus d'État, c'est hop, hop, on prend la valise, on s'en va. Je veux dire, c'est on s'en va, on sait pas, on part, ça fait un espoir, il faut partir. Donc on a le sentiment de la précarité. Mais la quête des origines, s'enrichir par l'exil, etc., c'est mon fils. Ça, c'est pas moi. Moi, j'ai voulu me débarrasser du traumatisme de l'exil. Mais la génération suivante, la génération d'après, elle porte pas ce poids, dans le fond. Elle est plus dans la quête des origines, hein, des filiations, des généalogies, des richesses apportées par les déplacements, etc. Ça m'apporte aussi beaucoup, parce que c'est un dialogue avec les jeunes générations qui m'apporte énormément, hein. Ça, c'est évident. Mais c'est pas ma vie à moi. Tous mes premiers ouvrages, moi j'en ai fait au moins 30, ils portaient sur la politique, sur l'histoire, sur la révolution, sur les engagements. Bon. Les histoires d'exil et de traumatisme, c'est arrivé quand j'ai passé les 60 ans. L'éclair retrouvé, c'est un livre que j'ai écrit à 70 ans. 68 ans, vous voyez ce que je veux dire. Mais je n'ai pas commencé par là. Je n'ai pas écrit ça à 25 ans. À 25 ans, j'écrivais l'engagement, la révolution, l'Europe, la France, le Maghreb, l'Algérie, je ne sais pas quoi, etc. C'était très, très abstrait, quelque part. Hein. Bon, c'est pas le même type d'écriture, quoi. C'est pas la même chose.
Bien sûr.
Voilà.
Et les photos défilent sur le coin de la table. Je la surprends fragile, déverse quelques larmes. Elle se souvient de tout, les parfums, les couleurs. Le temps n'a rien dissous, juste là dans son cœur. Elle me dit les détails, l'insouciance comme un fruit qui poussait en bataille sur le sol du pays. Et soudain le silence, la déchirure immense, l'exil.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.